Interview.
'Occasion de ce festival des résistances. Et ce matin, donc dimanche matin, dans la grange, je suis en compagnie de Laure et on va discuter donc de l'agro-industrie. Donc pour commencer, Laure, je te laisse te présenter autour du livre que tu as écrit, donc Les frites viennent des patates, qui a été publié aux éditions Grasset en février dernier.
Oui, merci Charlène. Qu'est-ce que je peux dire ? Eh bien, ça fait 10 ans que je travaille pour les ONG environnementales. En gros, je crois que je peux dire ça. Je suis ingénieure forestière de formation. Dans mon parcours, j'ai eu très envie de m'attaquer au lobby de l'agro-industrie, au lobby de la pêche industrielle. Et on m'a proposé, il y a un an et demi maintenant, d'écrire un livre sur tout ça, ce que j'ai accepté de faire. Et donc, il y a trois parties. Ici, on va se concentrer sur une seule. Mais il y a une première partie qui a visé vraiment à répondre à toutes les questions qu'on m'a posées pendant des années, puisqu'en gros, j'intervenais beaucoup dans les médias pour les ONG pour répondre aux questions. Donc c'est, par exemple, est-ce qu'on peut faire confiance au bio ? Comment on fait quand on n'a pas de thunes pour bien manger ? Est-ce que c'est possible ? Quels sont les rapports de pouvoir au sein de l'agro-industrie ? Pourquoi il y a autant de tensions sur le sujet de la viande ? D'un point de vue santé, écologique, comment est-ce qu'on fait dans un monde où le nombre de paysans et de paysannes s'effondre ? Quel monde est-ce qu'on veut ? Et donc voilà, il y a une toute première partie plutôt conso, et la deuxième partie, j'emmène les lecteurs, lectrices dans les dessous de l'assiette. En fait, on soulève ce qu'on a dans notre assiette et on va essayer de comprendre les rouages, les mécanismes, les coulisses de l'agro-industrie.
Donc tu remontes toute la filière et toutes les ramifications de cette filière.
Oui, c'est ça, sachant que c'est une filière tentaculaire, plus que linéaire, donc on ne peut pas suivre un unique fil rouge, mais en tout cas, moi ce qui me tient très à cœur, c'est vraiment de montrer à quel point c'est un système qui est dense, ramifié, complexe, et à quel point il y a une question de rapport de pouvoir, une question d'asymétrie des pouvoirs qui est extrêmement oppressif. Et en fait, ce que je veux, c'est contrecarrer la rhétorique habituelle des lobbies de l'agro-industrie, des représentants de l'agro-industrie, qui insistent sur la responsabilisation individuelle, qui insistent sur la culpabilité des individus en disant « si ça ne va pas, pour sauver les paysans, pour sauver la planète, pour la santé, il faut manger bio, manger mieux, acheter local, ce qu'on veut. » Sauf qu'en fait, derrière, il y a tout un système qui ne permet pas ça. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en lumière ces rouages-là et de montrer à quel point ces rapports de pouvoir totalement asymétriques nous mettent dans le rouge, en fait.
Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer, pour commencer, ces gros rouages de l'agro-industrie ? Qui sont ces acteurs ? Est-ce que tu pourrais nous dresser un portrait de toute cette mécanique en place aujourd'hui ?
Oui, c'est pas évident parce que c'est vraiment une myriade, mais il y a quelques éléments clés qui permettent de comprendre comment fonctionne l'agro-industrie. La première chose à comprendre, c'est que c'est vraiment une myriade d'acteurs, un système très dense, comme je le disais, mais par contre, contrairement par exemple à l'industrie pétrolière, où il y a de très grosses multinationales et des travailleurs, hein, il y a des travailleurs dans les usines, etc., mais il y a une fonction, la fonction du pétrole, c'est pas la même que la fonction nourricière. Dans l'agro-industrie, même les agro-industriels les plus puissants, leur vocation, on sait que c'est faire des profits, mais il y a quand même un enjeu nourricier derrière. Et donc, c'est beaucoup plus difficile à contrecarrer dans la rhétorique que quand on parle d'énergie fossile, par exemple, ou dans la pharmaceutique, d'un point de vue, non utile au quotidien. Donc, pour bien comprendre, il y a les acteurs des filières, tout d'abord. Il y a en gros les filières de l'amont à l'aval, c'est-à-dire les producteurs et les productrices, ceux qui vraiment produisent. Alors, je parle de l'agro-industrie, mais ça concerne aussi la filière de la pêche, donc les pêcheurs et les pêcheuses. Il y a toute la filière qui, dans cette filière-là, il y a toute la transformation. Donc, on produit un aliment, on produit du blé, enfin des céréales, de la viande, des fruits et légumes, des noix, des noisettes, ce qu'on veut. Ça, c'est transformé. Enfin, il y a d'abord des négoces, pardon, qui vont le commercialiser, qui vont le revendre à d'autres. Il va y avoir de la transformation en biscuits, en pain, en ce qu'on veut, en steak haché. Et ensuite, il y a la grande distribution. La grande distribution et tous les circuits de distribution. Il y a aussi, bien sûr, les circuits courts, les épiceries spécialisées, etc. Mais le gros des ventes, c'est la grande distribution. Donc ça, c'est la filière classique à laquelle on pense assez simplement si on imagine l'agro-industrie. Et puis, il y a tout autour de cette filière assez linéaire, en fait, hein, de la production à la vente, il y a tous les services à l'agro-industrie. Alors, services, attention à ce moment-là, ce sont des services, mais c'est bien pour faire des profits. Ces services-là, c'est... Et là, notre ami Greg, ici présent, va pouvoir nous en dire un mot. Il y a tous les systèmes, toute la question des banques et des assurances. Il y a toute la question des fabricants de pesticides, fabricants d'engrais, fabricants de semences. On y pense moins, mais il y a tous les fabricants de logiciels informatiques, d'intelligence artificielle, qui s'immiscent peu à peu dans nos campagnes, même si en France, on a encore des Gaulois et des Gauloises réfractaires. Ça s'immisce peu à peu dans les campagnes. Il y a les instituts de recherche aussi, tout autour, qui constituent cette panoplie-là, et les acteurs politiques. Mais il y a déjà ce système de banques, assurances, qui verrouille en fait le secteur. Et ça, c'est important de le comprendre, parce que tous ces acteurs-là, qui pèsent pour des milliards d'euros, n'ont qu'un intérêt, c'est maintenir le statu quo. Et donc, ça fait qu'en fait, s'attaquer à l'agro-industrie, et c'est ça tout l'objet de ce livre, en fait, c'est de comprendre quels sont les mécanismes, le fonctionnement et les failles pour mieux l'attaquer. En fait, c'est complexe parce qu'il faudrait l'attaquer de tous les côtés en même temps. Mais Greg, ici présent, qui est éleveur en polyculture élevage, on l'a proposé de venir parce qu'on s'est rencontrés hier donc sur le plateau au Makistan. Et il a une histoire qui illustre, tristement, mais qui illustre très bien à quel point le système financier verrouille le modèle agricole paysan. Est-ce que tu viens de te présenter, nous en dire plus ?
Oui, tout à fait, Laure. Donc, merci de ton invitation. Donc oui, bon, effectivement, ce système... Disons bancaire, utilise ce que, en termes professionnels, eux appellent des référentiels. Et il est évident que toutes les structures qui ne correspondent pas, ne répondent pas à ces référentiels sont donc mises sur la touche. Donc, bien sûr, c'est le cas de tous les petits, tout ce qui est résilient, disons, tout au moins. Et bien sûr, c'est notre cas personnel aussi. Et concrètement, à titre anecdotique et d'expérience, mais. Il est vrai que nous sommes en train de le vivre sur notre ferme, dans le sens où une partie de la ferme a été achetée via la SAFER, donc la Société d'aménagement foncier rural, qui est un peu l'agence immobilière de l'agriculture en France. C'est un rôle de gendarme des terres qui, évidemment, nous a octroyé donc, des facilités de paiement pour cette terre et nous les remercions. Sauf que ces facilités de paiement, bien évidemment, il fallait lire sur les petites lignes. Puis il y avait des petites clauses qu'on n'a pas forcément très bien lues. Très content déjà de pouvoir travailler, d'avoir un outil, d'être sur ces terres. Et sur ces petites lignes, il était dit qu'au bout de 5 ans, pour renouveler les 5 années d'occupation, il pouvait modifier les taux d'intérêt du produit bancaire concerné. Et on est passé, sur les 5 premières années, nous étions sur 1,5%, et la proposition qui a été faite au bout de la 5e année, c'était de passer à 14% l'an.
Tu dis proposition, mais on est d'accord que ça a été imposé.
Une proposition imposée, parce que de toute façon, c'est ça ou dehors. Donc, en gros, c'est comme ça que ça se passe. Si on ne paye pas, on sort. Et donc, on se retrouve devant le mur à 14%. Donc, la solution
ça représente combien, 14%?
À 14% sur un montant de 70 000 euros, 14% l'an, c'est-à-dire que on se retrouve au bout de 5 ans à rembourser 70% de plus que la somme de départ.
Donc ça fait quoi ? Tu me dis que ça représente plus de 70 000 euros, c'est ça ?
Donc 70 000 euros, c'est l'achat, et donc ça représente entre les intérêts et tout ce qu'on doit rembourser de plus, 50 000 de mieux. Donc je crois qu'à la sortie, on sort à 128 000 euros avec les frais pour un achat initial de 70 000.
Cinq ans plus tard, 50 000 euros.
Voilà, tout en sachant que les premières années, les premières annuités, on ne paye que les intérêts, bien sûr, le principe classique bancaire, et on ne paye pas le capital. Le capital, lui, reste indemne. C'est vraiment que sur la fin qu'il est...
Ça
fait un an qu'on occupe le site à titre gracieux. Ils nous ont offert l'année sur place en nous mettant un impératif au 30 juin, donc une date butoir, où là, évidemment, au 30 juin, on est dehors si on ne paye pas. Voilà. Alors, ce qu'on a fait, on a économisé, vendu tout ce qu'on a pu faire. On est arrivé beaucoup plus que les deux tiers de la somme. Et puis là, avec la date butoir du 30 juin, on est vraiment en recherche de soutien, de participation pour essayer d'arriver à sauver cet outil résilient en tous les cas et qui effectivement n'a pas les bons papiers pour trouver des financements classiques abordables.
Voilà. Et juste pour préciser, du coup, ta ferme, elle se situe où et c'est quoi votre activité ?
Alors la ferme est dans le Périgord vert. Les activités sont multiples sur la ferme. Donc c'est bien sûr, bon, on va dire quand même la base, ce sont les chèvres où nous transformons et, avec les marchés, et vraiment le circuit court et transformation. Mais il y a aussi les vaches en transformation aussi, il y a des brebis pour le secteur viande et il y a surtout la forêt. La forêt qui, elle, bien sûr, est utilisée par nos chèvres et nos vaches, hein, puisqu'il faut savoir qu'elles mangent surtout en forêt. Et donc on est vraiment dans le pastoralisme traditionnel, disons, voilà.
Il vous reste 3 semaines pour récolter 10 000 euros, c'est ça ? 6 000 euros ?
Tout à fait, sur les 10 000, il faut savoir que là, en 2 jours, on a eu la chance de récolter à peu près 4 000 avec les amis autour, d'où mon déplacement sur le secteur, parce que c'est un secteur où j'ai vécu une partie de ma vie.
Et donc il vous reste quand même 6 000 euros à trouver en 3 semaines,
oui.
Sans quoi vous mettrez la clé sous la porte ?
pour cette partie de l'exploitation, mais ça peut mettre en péril le reste.
Voilà, c'est et donc, il y a un financement participatif, mais pour celles et ceux qui voudraient soutenir, ça s'appelle la Ferme de la Plaine. Donc, on peut le retrouver sur Facebook, Ferme la Plaine, ou la Ferme de la Plaine 24@gmail.com pour celles qui voudraient vous contacter et en savoir plus. Merci à tous celles qui voudront soutenir ce modèle paysan qui s'effondre. Merci beaucoup, Greg.
Merci à toutes, merci à tous, merci Laure.
Et on espère que les auditeurs et auditrices de Radio Royan Vercors, du Divois et du Crétois avec qui on est en partenariat. Laure, est-ce que tu veux rebondir sur ce témoignage et apporter des précisions? En fait, où se situe ce problème avec cette multiplicité d'acteurs et où sont les nœuds, en fait?
Est-ce que cet exemple illustre, et qui est grave, hein, c'est cette mainmise d'acteurs financiers sur le modèle agricole. Ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu, et pardon, je vais juste faire une pression là-dessus, c'est ça qui oriente tout. L'argent, il vient des gens qui achètent. Donc ça, c'est une première chose, sauf qu'on est dans un pays où on a de plus en plus de mal à s'en sortir. Enfin, alors, il y a des élites qui s'en sortent de mieux en mieux, hein, qui font de plus en plus de profits, mais il y a quand même toute une partie de la population qui a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. Donc c'est compliqué de leur demander ou de demander à tout le monde d'acheter mieux, acheter plus local, acheter plus bio, acheter aux éleveurs paysans ou aux agriculteurs paysans comme Greg. Pour autant, le gros de la masse financière, il se fait quand même au niveau européen. Ce sont les subventions du modèle agricole, ce sont les subventions de la politique agricole commune. Donc ça, c'est un premier élément sur lequel on pourrait agir. Merci, mais comment je fais pour influencer la PAC? Et on a été des dizaines d'organisations syndicales, non gouvernementales, associatives, etc., à essayer de peser sur ces rapports de force au niveau européen. Et c'est compliqué, parce que le rapport de force européen n'est pas en votre faveur. Et on enregistre aujourd'hui le jour du vote des élections européennes. A priori, le Parlement va basculer encore plus à droite, vers l'extrême droite. Et donc, ça va être de plus en plus difficile de négocier des prises de position qu'on a déjà du mal à tenir. Le gros nœud, ça reste l'argent et les rapports politiques européens. Le deuxième gros nœud, enfin là, pour moi, ce qui permet vraiment de comprendre comment fonctionne le modèle agro-industriel, c'est la concentration des pouvoirs. L'ennui, c'est qu'on a un système qui est très concentré à un endroit. C'est-à-dire qu'on a... Il faut imaginer comme un sable. On a au niveau mondial des milliards d'agriculteurs, d'agricultrices. On a des milliards et des milliards d'individus qui mangent, donc qui vont acheter ou manger ces produits. Et au milieu, on a une poignée d'acteurs. Alors ça dépend. En France, par exemple, dans le système de la transformation, il y a beaucoup de très petites entreprises et moyennes entreprises. Mais en fait, il y a quand même quelques entreprises qui détiennent le gros du marché. Donc on a quand même cet effet d'entonnoir. Un exemple, je pense qu'à peu près tout le monde connaît les GAFAM. Eh bien, on a l'équivalent dans le milieu de l'agro-industrie. On les appelle les ABCD. Donc, c'est l'équivalent des GAFAM. C'est A pour ADM, B pour Bunge, C pour Cargill, qui est un mastodonte de l'agro-industrie et de la viande au niveau mondial, et Dreyfus ou Louis Dreyfus Company. Donc, ces ABCD, ces GAFAM de l'agro-industrie, contrôlent à elles seules 70 à 80% de toutes les céréales au niveau mondial. Donc on a quatre entreprises qui concentrent 80% de la denrée de base de notre vie et de notre survie au niveau mondial. Donc c'est très grave en fait. On a permis que des mastodontes de l'agro-industrie continuent de grossir jusqu'à avoir cette mainmise sur ce marché des céréales. Et c'est un exemple parmi d'autres. Un autre exemple, c'est que si on prend par exemple le niveau plus européen et qu'on prend un autre acteur de l'agro-industrie qui est la grande distribution, bien il faut savoir que 5 distributeurs européens, dont Carrefour, contrôlent la moitié de toute la grande distribution européenne. Le problème avec ça, c'est que quand on a une telle concentration des pouvoirs, la capacité des travailleurs et des travailleuses, des agriculteurs, des ouvriers dans les chaînes agricoles et des ouvrières à s'organiser, en fait, devient extrêmement compliquée parce que le pouvoir est entre les mains de quelques-uns. Et il y a un exemple que France, par exemple, on est parmi les plus gros mangeurs de chocolat au monde. C'est un truc, c'est questionné nulle part, même dans les milieux très militants, très alternatifs. On amène du chocolat, on mange du chocolat, on mange du café, on boit du café tout le temps, c'est complètement normal. Alors que ce sont des filières qui sont extrêmement concentrées et qui créent de gros problèmes sur les sols, notamment africains. Et bien pour le cacao, par exemple, il y a une fondation australienne qui a montré que dans les filières du cacao, donc c'est principalement le Ghana et la Côte d'Ivoire, hein, mais c'est surtout ces deux pays-là qui fournissent le monde entier, ils ont évalué à 1,5 million le nombre d'enfants qui travaillent dans les champs de cacao, entre 10 et 17 ans, qui vont cueillir, récolter ce cacao pour nous permettre, nous, occidentaux, de les manger. Sur ces 1,5 million d'enfants, ils ont évalué à 16 000 le nombre d'enfants qui sont dans des cas de travail forcé, donc de l'esclavage moderne. Donc en fait, notre consommation en Occident, poussée par le marketing, la publicité extrêmement agressive, par cette concentration des pouvoirs dont je parlais, en fait, elle se base sur de l'exploitation d'enfants, de travail, donc de l'esclavage moderne. Et là, je ne parle même pas de l'exploitation des femmes ou des ouvriers birmans, thaïlandais et autres sur des bateaux de crevettes, mais qui sont gardés captifs pendant des mois, voire des années, sur des bateaux avec des conditions désastreuses pour nous approvisionner en crevettes. Donc voilà, je pense que ça, c'est le point clé pour commencer sur une note de joyeuse d'explication de l'agro-industrie. Mais je pense que c'est bien d'ouvrir les yeux. La première chose à faire pour contrer l'agro-industrie, c'est quand même d'ouvrir les yeux. Et l'idée, bien sûr, c'est pas de culpabiliser, encore une fois. C'est pas de dire que c'est mal tout ce qu'on fait, mais c'est d'amener de la conscience sur certains produits qui, en fait, ne devraient pas être des produits de consommation courante, mais des produits de luxe. Mmh. Et revenir à des cas exceptionnels de consommation. Et j'aimerais donner un exemple, parce qu'il y en a un qui me fascine. C'est le parrain de la viande en France. C'est le représentant de la viande que personne ne connaît, ou presque. Et je vais demander, là, il y en a une vingtaine de personnes dans la salle, est-ce que vous connaissez Bigard ? Eh bien, Bigard, c'est 7 steaks hachés sur 10 vendus en France. C'est Charal. C'est la marque Charal, c'est la marque aussi Bigard, c'est tout ça. Eh bien, Bigard a monté un quasi-monopole, en fait, du marché de la viande. Concrètement, à l'origine, c'est un homme, Lucien Bigard, qui, à la fin des années 60, se dit, tiens, et si je montais mon entreprise de commercialisation de la viande ? Sauf qu'il a pris l'agro-industrie s'est vraiment construite au fur et à mesure de l'évolution des technologies. Technologies qui ont beaucoup évolué avec la guerre. Hein. L'agrochimie a évolué en même temps que les Premières et Deuxièmes Guerres mondiales. Et donc, dans les années 70 et 80, il y a eu notamment beaucoup d'évolutions sur les méthodes de conservation des produits. Et notamment, on a inventé les produits sous vide. Et donc, dans les années 80, il y a eu la création des steaks hachés sous vide, dont Lucien Bigard s'est emparé. Et là, il a lancé cette machine qui a cartonné et c'est devenu une très grosse entreprise. Déjà, à ce moment-là, on était dans un modèle qui était loin d'être l'entreprise familiale paternaliste. On était dans un modèle déjà extrêmement capitaliste avec une oppression très claire de la classe des travailleurs par le patron. Un exemple très concret, et heureusement, là, c'était une victoire des travailleurs, mais Lucien Bigard a voulu chronométrer les pauses pipi. Il voulait dire à ses travailleurs, travailleuses, c'est 3 fois maximum par jour et c'est 5 minutes maximum par pause pipi. Et il voulait que tout le reste du temps, les gens travaillent. Eh bien, il n'a pas réussi. Heureusement, il y a eu une lutte, il y a eu des grèves des travailleurs et des travailleuses des usines Bigard. Et donc, ça a été retoqué. Il n'a pas pu chronométrer ses pauses pipi. Mais c'est une illustration d'à quel point ces entreprises se sont forgées vraiment dans l'esprit du fordisme et du taylorisme, de l'automatisation et de la mise en cadence infernale des chaînes de production. Et donc, Bigard s'est construit comme ça. Et puis, il y a eu son fils, Jean-Paul Bigard, et le fils du fils, Maxence Bigard. Jean-Paul Bigard, c'est la 148e plus grosse fortune de France. Si je ne me trompe pas, et là aussi je regarde mes chiffres, il a sa fortune s'élève à plus de 800 millions d'euros. 800 millions d'euros. Alors qu'on a des éleveurs et des agriculteurs qui sont en train de crever et de galérer à trouver 10 000 euros pour s'en sortir. Le mec a 800 millions d'euros sur le dos des consommateurs et des paysans. Donc pour moi, là, il y a un problème très grave. Et ce qui est très grave, c'est que cette concentration, qu'est-ce qu'elle leur permet ? Elle leur permet de s'asseoir sur les lois. Elle leur permet de s'asseoir sur la transparence. Bigard ne publie jamais ses comptes. Il ne publie jamais ses comptes, il exploite les gens de ses usines. Il y a eu des cas, des syndicats, des gens qui ont écrit des lettres, qui ont dénoncé les conditions de travail dans les usines, qui ont dénoncé les cadences infernales, les conditions de travail infernales. Et tout ça, ça a été pris en main par des députés. Et notamment, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu quelques années, une vidéo de François Ruffin, alors qu'il est député. Ils avaient mis en place avec d'autres députés du Modem et je crois du PS une commission parlementaire. Donc une commission parlementaire, je ne sais pas si vous connaissez, c'est comme en gros les députés ou les sénateurs veulent mener une enquête sur un sujet clé. Donc ils créent une commission d'enquête et en fait c'est le seul moment où les acteurs concernés sont obligés de se présenter au rendez-vous. Parce que sinon si un député demande à Bigard de venir, mais quand il y a une commission d'enquête, légalement il est obligé. Et donc là, Maxence Bigard, le petit-fils de Lucien Bigard, s'est présenté à la commission d'enquête. Et alors là, vous pouvez retrouver cette vidéo sur Internet. Elle est terrifiante parce qu'elle montre la toute-puissance de cet acteur-là, puisqu'on a différents députés qui soulignent un à un toutes les défaillances du modèle Bigard, les oppressions en fait du modèle Bigard, en parlant des travailleurs, en parlant de l'agro-industrie, en parlant de leur mainmise sur tous les abattoirs français. Et Maxence Bigard les regarde avec un petit sourire
et il répond pas.
Et au bout de 20 minutes, il prend le micro, il ouvre son micro. Et là, il dit quelque, je ne sais plus le chiffre, mais il dit quelque chose comme « Bigard exploite environ 125 000 porcs par semaine dans ses abattoirs. Merci. » Et il referme le micro. Donc, il répond à côté de la plaque. Et après, il s'en va. Et donc, en fait, ça montre qu'il se trouve complètement au-dessus des lois. Et même quand les députés ont demandé la transparence des comptes, Bigard ne l'a pas fait. Et il a fallu que des lanceurs d'alerte comme Inès Lérault et comme L214 lui fasse un procès une énième fois pour arriver à obtenir la transparence des comptes sur quelques années. Mais ça, c'était en 2018, et les 3-4 dernières années, on ne les a toujours pas. Donc en fait, on a encore là un niveau de verrouillage du système agro-industriel où on a du mal en fait, à se battre contre ça, parce que sa puissance est énorme. Un autre exemple bigard, et j'insiste un peu parce que je trouve que ça montre bien à quel point ça percole du point de vue, enfin, du niveau politique national au niveau terrain, c'est que j'ai discuté avec plein d'éleveurs, et je ne sais pas si Greg, tu as des exemples, tu pourras nous en donner. Mais moi, j'ai eu plusieurs éleveurs qui nous ont fait des témoignages, comme quoi en fait, bigard, en gros, il a récupéré la plupart des gros abattoirs français. C'est lui qui possède tous les plus gros. Or, un abattoir, pour fonctionner, a besoin d'avoir suffisamment de viande, enfin d'aller à sa capacité maximale, en fait. S'il fonctionne en sous-régime, il n'est pas rentable financièrement, et donc il finit par mettre la clé sous la porte. Et bien bigard, ce qu'il fait, c'est que dès qu'il y a un abattoir qui commence à battre de l'aile, il attend que vraiment ça se casse la figure, il attend, le dernier moment. Et au dernier moment, il vient, et là, en général, il y a des éleveurs qui s'arrangent entre eux, des éleveurs du coin qui s'associent et qui essaient de monter un modèle coopératif, local, pour de l'abattage voilà, qui reste local et qui leur permet aussi d'éviter le transport des animaux, donc ce qui est mieux quand même pour leur bien-être. Je ne rentre pas dans le débat du véganisme ici, mais en tout cas, si on considère que manger de la viande, c'est normal, ça permet de prendre soin aussi des animaux. Et aux éleveurs, ça leur permet d'accompagner les animaux aussi. Parce que si c'est trop loin, ils n'ont pas le temps de les amener trop loin. Et ça coûte plus cher. Et donc, en fait, là, donc ils s'organisent pour récupérer cet outil de travail. Donc, en gros, c'est bien parce que c'est la lutte contre le capitalisme, c'est la récupération de l'outil de travail par les travailleurs. Et bien, Bigard arrive, et là, il met des gros chèques sur la table. Il récupère l'abattoir. Il n'a pas le droit de le faire fermer. D'un point de vue légal, ça ne marche pas. Par contre, il se débrouille pour que l'abattoir fasse faillite, pour qu'il puisse fermer légalement. Et ensuite, du coup, il renvoie tous les éleveurs, sont obligés de ramener leurs animaux à son abattoir à lui industriel, beaucoup plus loin, ce qui leur coûte beaucoup plus cher. Et du coup, ils sont obligés de faire appel à quelqu'un qui fait la récolte des animaux, je ne sais plus le bon terme, mais qui va récupérer tous les animaux et l'amener. Et lui-même a été racheté par Bigard pour amener les animaux à l'abattoir.
Je confirme, tu as dit la réalité, c'est comme ça que ça se passe. Un abattoir ferme à peu près tous les mois en France. Il n'y en a bientôt plus, d'ailleurs. Voilà. Voilà.
Il reste que les bigards, c'est ça. Je vais peut-être donner un exemple juste sur la grande distribution de ce modèle de ce modèle agro-industriel. La grande distribution, j'ai envie d'en parler parce que son talon d'Achille, pour le coup, par rapport à Bigard, où Bigard, en fait, personne ne connaît le nom de Bigard, en fait, la grande distribution, son talon d'Achille, c'est quand même qu'elle a une image de marque, en fait. Elle a besoin d'avoir une bonne image auprès des consommateurs et des consommatrices, ou des mangeurs-mangeuses, pour fonctionner. Elle a besoin d'attirer les gens à ses enseignes. Donc, elle a une faille. Mais elle a aussi une toute-puissance. Et notamment, j'aimerais parler du bio et la question du prix. Parce qu'il y a quand même un vrai sujet qui est comment on fait pour manger bien, pour manger bio, local, quand on n'a pas de thunes. Enfin, c'est quand même un vrai sujet. Eh bien, la grande distribution, il faut savoir que, comme d'autres entreprises de l'agro-industrie dans la transformation, elle se fait beaucoup de marge sur les produits. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, une carotte bio et une carotte non bio, oui, la carotte bio est plus chère au départ. Elle a coûté plus cher à produire, ça coûte plus cher de cultiver sans pesticides, il faut désherber à la main, etc. Ou avec du mécanique... Donc en tout cas sans chimie. Donc ça coûte plus cher. Donc la carotte bio et non bio, elles arrivent ensemble dans le supermarché. Sauf qu'ensuite, le supermarché, en fait, ce qu'il fait, l'enseigne de distribution, elle se fait un pourcentage sur ce prix avant de la mettre en rayon. Ce qui fait que quand elle se fait un pourcentage sur une carotte bio, bah, comme elle est plus chère à la base, au final, elle va être plus chère à la sortie par rapport à une carotte non bio, puisque c'est un pourcentage. Donc la grande distribution se défend en disant « Non, mais moi j'applique le même pourcentage partout ». Mais en fait, ça ne coûte pas plus cher d'attraper une carotte bio pour la mettre en rayon qu'une carotte non bio. Elle n'a pas des piquants ou il ne faut pas la mettre sous des formes géométriques dans les rayons. Enfin. Donc ça ne coûte pas plus cher. Donc en fait, la grande distribution, il y a eu des associations comme Foodwatch et autres qui ont fait des analyses et qui ont montré qu'elle pouvait se faire jusqu'à 40% de bénéfices en plus sur le bio. Donc en fait, quand on parle de pouvoir d'achat, quand on dit que le bio est cher, oui, c'est vrai, le bio est plus cher, mais c'est plus cher, entre autres, parce que la grande distribution se fait des marges monstrueuses sur le dos des paysans et des paysannes, parce que cet argent ne leur revient pas, et sur le dos des consommateurs et des consommatrices qui après disent « mais regardez, le bio c'est trop cher », ce qui est une réalité. Donc ça aussi c'est important de le comprendre, parce que cette toute puissance de la grande distribution, elle génère ça. Et elle génère ça notamment, et elle génère autre chose, c'est qu'elle tire les prix vers le bas. Et là on l'a bien vu, parce qu'en février il y a eu la crise agricole. Alors la crise agricole, ça fait des années qu'elle est en cours. Mais disons qu'il y a eu une émergence, une partie explosive, une révolte du monde agricole plus visible que d'habitude au mois de février, et qui parlait du revenu paysan. Eh bien la grande distribution qui pendant... Alors au début, elle a quand même fui les interviews, elle ne voulait pas répondre. Elle a fini par accepter les interviews, une fois qu'ils avaient bien préparé leurs éléments de langage. Et à ce moment-là, elle disait qu'elle était la défenseuse des produits français, et qu'elle voulait soutenir les produits français, que d'ailleurs, elle n'importait pas. Bon, que des mensonges, mais elle disait ça. Eh bien, en même temps, se déroulaient les négociations commerciales, la fin des négociations commerciales, donc ce moment où chaque année, les agriculteurs négocient leur prix avec la grande distribution. Et il y a plein d'agriculteurs qui ont témoigné en disant que ça avait été une des plus dures négociations de ces dernières années. Donc vraiment, on a une différence entre le discours public et la réalité et la pression mise sur les agriculteurs. Donc non seulement les prix sont tirés vers le bas par la négociation âpre de ces distributeurs envers les paysans, mais en plus, ils importent des produits à bas prix qui tirent encore plus les prix vers le bas. Donc dans un tel système, c'est compliqué pour des éleveurs de s'en sortir financièrement. Quand on produit des aliments de qualité qui coûtent 4 fois plus cher que des aliments avec des prix tirés vers le bas, mais on comprend aisément dans quelle situation on se trouve actuellement.
Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Et est-ce que tu voulais rajouter un petit mot sur la FNSEA dans tout ça ?
Oui.
Si on a le temps.
Avec plaisir. On pourrait parler aussi de Nestlé, Danone, Lactalis, etc. Je vais les épargner pour aujourd'hui. On va parler quand même de la FNSEA. Je pense que comprendre le fonctionnement de la FNSEA, c'est vraiment comprendre comment fonctionne l'omerta du monde agricole actuel et le verrouillage du monde agricole actuel. Un verrouillage qui est maintenu, par les banques, par les assurances, etc. Mais la FNSEA a fait un travail sacrément efficace pour maintenir ce statu quo. Pourquoi ? Je ne vais pas revenir sur tout l'historique de la FNSEA, mais ce qu'il faut comprendre, c'est quand même la FNSEA, elle représente beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices en nombre. Elle a environ 200 000 adhérents. Ce qui est beaucoup, parce que les agriculteurs, c'est un peu plus de 400 000. On doit être à 390 000 exploitations aujourd'hui. En tout cas, la moitié des agriculteurs et des agricultrices sont adhérents à la FNSEA. La première chose à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant d'adhérents et d'adhérentes à la FNSEA ? Est-ce que c'est parce que ces 200 000 agriculteurs et agricultrices adhèrent aux valeurs portées par la FNSEA ? Eh bien non. Et on n'a pas encore d'études très fines sur le sujet. Je rêverais qu'on en fasse une. Mais pour l'instant, elle n'existe pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup de témoignages de terrain qui montre qu'en fait, si les agriculteurs adhèrent à la FNSEA, c'est parce qu'elle fournit des services qui n'existent pas, qui ne trouvent pas ailleurs. Par exemple, d'un point de vue administratif, quelque chose qui pèse sur le monde agricole, c'est de faire les dossiers pour la PAC. C'est un truc chiant, les dossiers pour la PAC, les fiches de paie, enfin, il y a plein de trucs qui sont quand même une galère administrative sans nom. Et ce n'est pas évident. Eh bien, la FNSEA, pour, je crois que c'est 17 euros par dossier, elle fait ce travail-là. Donc, elle propose plein de services comme ça qui sont importants. Elle propose aussi des services juridiques. Quand un éleveur laitier face à Lactalis et que, surprise, surprise, il se retrouve en conflit avec Lactalis et essaye de défendre son prix de production, parce que Lactalis essaie toujours d'acheter en dessous du revenu du coût de production de l'éleveur, ce qui mathématiquement, ce n'est pas compliqué à comprendre que ça va tuer l'éleveur, la FNSEA est là pour soutenir les éleveurs face à Lactalis et avec donc des avocats et du montage de dossiers juridiques. Donc c'est pas rien. Ces services-là, les agriculteurs ne les trouvent pas ailleurs. Ça devrait être fait par les chambres d'agriculture, ça pourrait être mieux fait par la Confédération paysanne et d'autres, mais aujourd'hui, pour plein de raisons qui se comprennent, je ne jette pas la pierre à la conf, mais pour plein de raisons qui se comprennent, c'est la FNSEA qui fait ça. Et donc ça fait qu'il y a plein d'agriculteurs qui y vont pour ces raisons-là. Sauf que pour qu'un agriculteur accède à ces services, il doit adhérer à la FNSEA. Et quand, par exemple, il veut aller dans une coopérative pour mieux vendre et mieux faire négocier le prix de ses produits, donc la coopérative aide à faire ça, eh bien, il y a certains dirigeants qui disent « t'adhères à la coopérative, mais au passage, il faut que pour adhérer à la coopérative, il faut que tu signes ce petit papier d'adhésion à la FNSEA. » Et hop, pour adhérer à la coopérative, donc ils récupèrent des adhésions à la FNSEA. Donc toute cette machine-là fait qu'ils récupèrent beaucoup de monde, alors qu'en fait, il y a plein d'agriculteurs qui ne valident pas leurs valeurs. Et ça, on le vérifie au moment des votes pour les chambres d'agriculture. Là, en janvier 2025, il y aura le renouvellement des présidences des chambres d'agriculture. Si on a d'ailleurs qui ont envie de monter des petites campagnes de pression, de vote, d'élection pour les chambres, je pense que c'est un moment particulièrement intéressant pour faire ça. Eh bien, les chambres d'agriculture, en fait, c'est un moment où les syndicats comme la FNSEA, la Confédération, etc. se présentent. Tous les gens du monde agricole, pas que les agriculteurs, peuvent voter pour les représentants. Eh bien, on se rend compte que pour la FNSEA, en fait, il y a à peine la moitié de gens qui votent pour la FNSEA. Il y a à peu près 100 000 voix. Je ne sais pas si, Greg, tu confirmes ces chiffres, mais ça, il y a à peu près 100 000 voix. Donc, en fait, ça montre qu'il y a à peine la moitié des adhérents de la FNSEA qui votent pour donner du pouvoir à la FNSEA. Donc, ça montre que ce différentiel, il est énorme. Donc là, il y a une faille qu'on devrait pouvoir attaquer assez solidement si on s'y met rapidement et tout ensemble. Et donc, moi, j'aimerais donner quand même une analyse politique sur l'actualité par rapport à la FNSEA, pour montrer sa toute-puissance. Si vous voulez comprendre l'omerta dans les terres bretonnes, je renvoie à la bande dessinée Algues Vertes, qui est splendide.
Et au film, je renvoie qui est paru,
il y a le film de Algue Verte aussi avec Inès Leroy, enfin une actrice qui représente Inès Leroy, mais Inès Leroy a travaillé dessus. Il y a aussi le livre Silence dans les champs de Nicolas Legendre. Voilà, ça c'est deux ouvrages qui montrent parfaitement l'omerta du milieu agricole sur les terres bretonnes qui sont le fief de l'élevage industriel. Et j'en sais quelque chose parce que j'ai écrit ce livre là-bas en résidence de travail, dans une caravane au milieu des élevages industriels. Voilà, comme ça, pour mettre bien dans le thème. Et donc, la FNSEA, j'aimerais quand même montrer une analyse critique de l'actualité. Il y a 2 ou 3 ans maintenant, invasion par la Russie de l'Ukraine. Choc géopolitique majeur. L'Ukraine, grenier à blé de l'Europe et du monde. Donc, c'est en fait, l'Ukraine a des terres extrêmement fertiles, des sols noirs très, très riches. Elle produit une très grande quantité de céréales qu'elle exporte, et notamment vers des pays tiers. Donc des pays hors Europe qui ont besoin de ces céréales aujourd'hui pour leur souveraineté alimentaire. Je ne rentre pas dans les mécanismes coloniaux qui expliquent quand même ces dépendances-là. Hein. Mais il y a ça derrière. Mais en tout cas, là aujourd'hui, de fait, il y a des pays qui sont quand même dépendants des céréales exportées par l'Ukraine. Donc, choc géopolitique, intervention guerrière, donc d'agression par la Russie, et les ports et le commerce en fait, de ces céréales ukrainiennes sont bloqués. En l'espace de 24 heures, vraiment il y a le déclenchement de la guerre, 24 heures plus tard, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, avec la FNSEA, publie un communiqué de presse en disant « Arrêt du commerce des céréales en Ukraine, danger de famine, il y a des pays qui vont mourir de faim, il faut absolument que l'on produise beaucoup plus de céréales pour sauver ces pauvres gens qui vont mourir de faim. » Je caricature un peu les termes utilisés, bien sûr, et on retrouve ce communiqué de presse sur leur site internet. 48 heures plus tard, le ministre de l'Agriculture, à l'époque Julien de Normandie, se montre en train de serrer la main à la responsable des sujets agriculture de la Commission européenne. Ça y est, on a fait sauter en fait certaines normes environnementales pour pouvoir produire plus. Quelle était la demande derrière ça de la FNSEA? En fait, elle disait il faut produire plus, donc il faut faire sauter les normes environnementales qui nous empêchent de produire plus. Et notamment, sa première demande, ça a été de faire sauter les jachères. Les jachères qui sont ces terres mises au repos. Donc en fait, elle ne demandait pas à faire sauter les jachères. Plus concrètement, en fait, elle demandait... Alors en gros, il y a pour toucher une partie des aides de la PAC... Il faut que les agriculteurs aient 7% de leurs terres en infrastructures agroécologiques. Donc des jachères, des haies, des bosquets, des mares. Donc ce que demande la FNSEA, en gros, c'est de faire sauter cette obligation pour toucher une partie des aides de la PAC. En 48 heures, elle l'obtient. C'est dramatique parce que, de un, la première chose à comprendre, c'est qu'il n'y avait pas de problème de quantité de céréales sur le marché à ce moment-là. Et plusieurs semaines après, il n'y en avait toujours pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Il y a eu un vrai sujet sur l'accessibilité par les pays tiers aux céréales. Mais ce n'était pas une question de quantité disponible sur le marché, c'était une question de prix. Parce que qu'est-ce qui s'est passé quand la guerre en Ukraine a commencé? Il y a tous les traders des marchés financiers qui se sont excités, qui ont acheté des stocks de céréales, qui les ont gardés, qui ont fait exploser le prix de la tonne de céréales. Donc elle est passée, je ne sais plus, je crois que c'était environ 400 euros la tonne à plus de 800. Enfin, mais en gros, le prix de la tonne de céréales a doublé et elle est devenue totalement inaccessible financièrement pour les pays qui en avaient besoin. Mais à ce moment-là, il n'y avait aucun problème de volume de céréales sur les marchés et il n'y avait pas de problème pour les 6 mois à venir. Puisque la Chine, en fait, avait de très grosses réserves, l'Europe avait plein de réserves, en fait, il y avait des réserves partout. Il n'y avait pas de problème. Donc, en fait, sans même vérifier la réalité de cet argument lancé par la FNSEA et qu'elle a mis en avant juste pour faire sauter les normes environnementales qui la font chier, en fait, c'est ça, hein, eh bien, le ministre de l'Agriculture français a poussé ça au niveau européen pour obtenir le fait de faire sauter les normes environnementales. Et en fait, tout ce mécanisme-là, c'est-à-dire d'utiliser un choc géopolitique pour s'engouffrer dans les failles et faire sauter des normes environnementales ou sanitaires, en fait, ça a été théorisé par Naomi Klein, une journaliste canadienne, si je ne me trompe pas, dans un livre qui s'appelle « La stratégie du choc ». Et la stratégie du choc, c'est ça. Ça a été très bien montré pour l'industrie du tabac, pour l'industrie, tous les climato-sceptiques. En fait, ça a été montré comment on utilise des grosses failles, par exemple une pandémie de Covid, pour faire passer derrière des normes extrêmement oppressives et pour faire toujours plus de profit derrière et de plus en plus de mise sous contrôle des populations. Et ça s'est repassé, et je vais m'arrêter là, mais ça s'est repassé en février de cette année, au moment de l'explosion de l'émergence plus visible de la crise agricole. C'est-à-dire qu'on a des agriculteurs, des agricultrices qui en ont ras-le-bol de cette situation, et ça peut bien se comprendre, qui se sont levés dans toute l'Europe, en France y compris, et qui ont dit « il y en a marre » et qui ont bloqué toutes les routes du pays et qui ont ravagé des parkings, coupé des arbres, enfin qui ont fait exploser des bâtiments. Alors ceux-là, ils n'ont pas encore été poursuivis, j'ai pas entendu parler de poursuites. Petit quand même, petite asymétrie par rapport à la répression des militants écologistes ou antiracistes. Mais donc on a ce problème-là. Et donc au moment de cette émergence de la crise agricole, qui à la base n'était pas lancée par la FNSEA, qui était lancé par des agriculteurs et des agricultrices dans le Lot-et-Garonne. Il y avait Ariège aussi, parce qu'il y en avait vers Carbone. Bref, en tout cas, dans le sud de la France.
Une pauvre dame qui est morte en Ariège aussi, écrasée.
Et une pauvre dame qui est morte écrasée à ces moments-là. En tout cas, à ce moment-là, il y a eu donc ce choc-là. Et la FNSEA, qui au début a dit à ces agriculteurs de rentrer chez eux, en fait, a récupéré la crise après coup, voyant que ça l'a dépassée complètement, qu'elle avait complètement perdu la main sur les agriculteurs, que ces agriculteurs de sa base se détournaient de la FNSEA pour aller vers les plus radicaux, à savoir la coordination rurale, encore plus à droite. Et donc, en fait, elle a récupéré tout ça, et notamment, elle a récupéré les revendications des agriculteurs à ce moment-là. Mais les revendications principales, c'était marre de la lourdeur administrative, marre de la lourdeur des normes européennes, en fait, mais surtout administratives, et on veut vivre dignement de notre métier. Et il y en a certains, un petit peu, qui disaient « marre des normes environnementales ». Mais ce qui se comprend, parce qu'en fait, si on ne vous permet pas de vivre dignement de votre métier, et qu'on vous fout des normes environnementales en plus, en fait, la première chose que vous avez envie de faire, c'est de repousser ces normes qui viennent vous asphyxier encore plus. Donc en fait, ils ont repris ça à leur compte, et au lieu de dire « il faut alléger la PAC, soutenir le revenu paysan », ils ont dit « il faut faire sauter toutes les normes environnementales et nous laisser produire tranquillement. » Et détruire l'Office français de la biodiversité. Et au passage, là, quand même, et ça c'est quand même très grave, et c'est là qu'on voit qu'on est sur une pente totalement fasciste du modèle dominant aujourd'hui, en France en tout cas. Mais c'est que la FNSEA a carrément demandé noir sur blanc dans ses demandes à ce que l'ANSES, donc l'autorité sanitaire et environnementale scientifique, donc vraiment l'instance scientifique nationale française, elle soit mise sous égide politique, sous l'égide du Premier ministre. Donc ça veut dire que même la science, ils ne la respectent pas et ils veulent qu'elle soit mise sous l'égide politique parce qu'ils sont écoutés par les politiques. Et désarmer l'Office français de la biodiversité. Merci Greg. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qui font des contrôles pour préserver le vivant et notre santé, mettons-les de côté, arrêtons de les écouter, mettons-les sous tutelle politique et laissez-nous faire tout ce qu'on veut. Et en fait, c'est ça la stratégie du choc de la FNSEA et c'est ça sa toute puissance politique.
Merci pour ces éclaircissements et ce dénouage de tous ces rouages. Donc ça, j'imagine qu'on peut le retrouver dans ton livre
oui.
En détail. Juste pour finir du coup cette discussion, une fois qu'on a compris du coup tous ces rouages, tous ces nœuds, le fonctionnement de cette mainmise, est-ce que ça nous permet de trouver des leviers d'action à différentes échelles pour peut-être aussi déconstruire et nuire à ce modèle qu'on ne veut plus ?
Il m'a quand même fallu une grande inspiration. Je me suis demandé si j'allais... Il y a un autre livre qui existe, que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Le paysan impossible » de Yannick Ogor, un éleveur ancien de la conf qui a écrit donc sur cette thématique du paysan impossible et qui, lui, son livre se termine juste... En fait, il est complètement dépité et pessimiste. Il ne donne même pas de solution tellement il est dépité. J'ai été tentée de faire ça. Après, je me suis dit non. Non, en fait, ce serait trop renier mes convictions profondes de lutte de terrain. Non, et en fait, oui, il y a des leviers d'action. Alors, ça va pas. C'est sûr qu'on va pas défaire l'agro-industrie du jour au lendemain. D'autant plus qu'on a aussi besoin de se battre sur la destruction du service de santé publique, de l'éducation. Enfin, en fait, les combats sont partout pour soutenir les migrants. Enfin, je veux dire, il y a tellement de combats à mener en même temps que c'est pas évident. Et on en a de plus en plus avec une répression policière de plus en plus violente et une précarisation de plus en plus violente des classes ouvrières. Donc, dans un contexte comme ça, avec en plus la montée du fascisme qui est quand même là maintenant. Au pouvoir déjà, en fait, c'est sûr que ce n'est pas facile. Pour autant, on a des marges de manœuvre. On a quelques failles qui existent dans lesquelles on peut s'immiscer. Et si on est suffisamment nombreux et nombreuses, on finira par les faire tomber. Si nous tirons tous et fort, il finira par tomber, comme le dit la chanson. Et donc, ces failles, quelles sont-elles ? Il y en a plusieurs. La première, alors je sais que je vais faire grincer des dents des personnes ici, hein, mais c'est le vote. Je comprends qu'il y ait plein de gens qui n'aient plus envie d'aller voter. Mais honnêtement, nous, quand on se bat au Parlement européen, je dis nous avec les ONG, quand on se bat au Parlement européen ou à l'Assemblée nationale, et qu'on se retrouve à perdre des voix, perdre des votes extrêmement cruciaux à deux députés près, en fait, là, on le voit la différence. En fait, là, on a les députés écolos. Alors, j'adhère pas forcément à toute la campagne qui a été faite par les écologistes et Marie Toussaint, etc. Pour autant, là, si aujourd'hui, là, avec le vote qui va se passer, si les écolos restent sous la barre des 5%, et qu'on se retrouve sans aucun député écolo au Parlement, mais pour défendre une autre politique agricole commune, sans Benoît Biteau et d'autres députés comme ça, écologistes, agriculteurs, en fait, ça va être compliqué, ça va être encore plus compliqué. Donc il y a les écolos, mais il y a toutes les forces de gauche, en fait, dont on a besoin au niveau du Parlement européen et au niveau de l'Assemblée nationale. Et je rêve d'un monde anarchiste, honnêtement, je le dis très clairement, je rêve d'un monde où on s'auto-organise et où on n'a plus besoin de l'État et des forces politiques en place. Mais aujourd'hui, en fait, si on n'arrive pas à contrecarrer les forces en présence, en fait, on n'y arrivera pas. On a trop besoin, là, de points d'appui à l'Assemblée nationale et au Parlement européen. Donc la première chose quand même à faire, c'est ça, et c'est pareil au niveau local. Ensuite, si on rejette complètement ce milieu politique d'ores et déjà, ce qui s'y suit, c'est que je peux bien comprendre, il y a plein d'autres façons de lutter. Pour moi, une des premières choses à faire, c'est dans les territoires, déjà, il y a plein d'initiatives absolument extraordinaires qui existent déjà. Alors, on aurait aimé avoir plus de monde autour de la table, mais ça s'est construit sur le tas. Mais il y a toutes les initiatives d'épicerie solidaire, toutes les initiatives aussi d'expérimentation de la sécurité sociale de l'alimentation. J'en dis pas plus maintenant, mais il y a un site internet qui existe qui explique très bien ça, qui est pour moi extrêmement porteur d'espoir. Il y a toutes les initiatives de solidarité, en fait, de caisses alimentaires autres, mais qui existent. Il y a tous les réseaux paysans, les réseaux de circuits courts, le réseau de soutien aux agriculteurs et aux éleveurs locaux. En fait, tout ça, c'est des choses qui existent, qui fourmillent et qui continuent d'augmenter. Et on le voit avec un retour à la réalité donc des néo-ruraux, les NIMA, comme on les appelle, les nouvellement installés. Je ne sais plus ce que veut dire l'acronyme. Mais en tout cas, on a beaucoup de gens des villes qui reviennent vers l'agriculture. Donc là, on a un changement de culture à faire parce que clairement, ce n'est pas évident. Ils ne sont pas les bienvenus partout et le foncier est très verrouillé. Mais on a là des leviers d'action quand même au niveau local. Mais ça veut dire soutenir le monde paysan. Il y a aussi au niveau local la lutte contre les grands projets destructeurs. Je pense que le Makistan, et ce week-end l'a bien montré, il y a plein de gens, mais il y a des milliers de personnes. Alors ça, c'est vraiment ce qui me fait tenir. Parce qu'il y a des milliers de personnes partout en France et partout dans le monde qui luttent contre la bétonisation des terres agricoles et des terres naturelles. Ou contre la pollution des cours d'eau, la pollution sanitaire aussi qui touche souvent les plus précaires. Donc en fait, on a là aussi, alors tout le monde ne peut pas aller se retrouver comme à Sainte-Soline, sous les grenades, sous les lacrymos et risquer en fait sa vie. Mais par contre, aider comme le font plein de gens ici dans les cantines solidaires, aider quand les gens se retrouvent en répression dans ce qu'on appelle les legal teams, donc tous ces soutiens juridiques post-action. En fait, il y a plein de manières de soutenir avec son temps, ses compétences ou son argent, ces mouvements d'action de masse dont on a pour moi absolument besoin. Je le nomme quand même parce que je pense que ce serait ne pas honorer tous les gens qui font des efforts de ne pas le dire, mais il y a quand même sa consommation. Alors déjà, il y a des gens qui n'ont pas les moyens et qui font le choix de prioriser leur alimentation avec une alimentation locale, bio, etc. Il y en a qui ne peuvent pas du tout se le permettre, mais pour ça, c'est pour ça qu'il faut des réseaux de solidarité qui permettent à tout le monde de le faire. Mais il y a aussi plein de gens qui ont de l'argent et qui ne vont pas acheter de la nourriture de qualité. Et en fait, ça c'est un truc important, c'est qu'on a la croyance en France, l'image. Beaucoup de gens ont l'impression que les plus riches mangent très bien, tout bio, tout ça, végé, etc. Et que les classes précaires mangent n'importe quoi. Et c'est totalement faux. En gros, sur la consommation de bio, chez les plus précaires, je crois que c'est 13% ou 14% des gens qui mangent bio, très régulièrement. Et au niveau des plus riches, je crois que c'est 17 ou 18%. C'est pas une différence énorme. Après, les plus riches mangent, les plus riches qui consomment bio, les quelques-uns qui consomment bio, consomment vraiment très très bio. Consomment quasiment entièrement bio. Donc en fait, le bio est majoritairement quand même acheté par les plus riches. Il y a une vraie segmentation, on ne va pas se mentir. Mais en fait, il y a plein de gens qui ont de l'argent et qui n'achètent pas ce qu'ils pourraient acheter et qu'ils pourraient soutenir. Et ce qui pourrait permettre aussi de faire des économies d'échelle, soutenir les éleveurs qui pourraient aussi peut-être être aussi en solidarité avec les plus précaires. Donc il y a quand même une petite remise en question quand on a les moyens sur ce qu'on est en train de faire. Mais voilà, mais j'ai quand même envie de sortir de la logique individualiste pour rester sur du systémique. Et moi, l'autre point sur lequel il me paraît essentiel d'agir, c'est la publicité et le marketing. Mais ça, ce n'est pas forcément évident au niveau local d'agir dessus. C'est ça passe surtout par les ONG, les associations au niveau national qui se battent contre ça. Et donc, j'invite les gens à soutenir. Les Bloom, les Foodwatch, etc. Les 60 millions de consommateurs, l'UFC Que Choisir. En fait, c'est plein d'organisations qui vont lutter contre les surmarges de la grande distribution pour plus de transparence, etc. Donc, il y a quand même un travail à faire là-dessus. Et par contre, on peut se battre contre l'influence des lobbies au niveau local, et notamment dans les écoles. Et ça, je ne vais pas en dire plus maintenant, parce que c'est une autre de mes grosses passions, c'est l'influence des lobbies de la viande industrielle dans les écoles, ou des lobbies du sucre dans les écoles. Et là, en fait, il y a tout un milieu de l'éducation où on pourrait se soutenir pour fournir aussi des outils aux profs qui tirent la langue, hein, clairement, et qui, en fait, se retrouvent à accepter des propositions d'intervention des lobbies de la viande, du sucre, etc., parce qu'elles sont gratuites, parce qu'elles sont extrêmement bien faites et que l'éducation nationale leur donne très peu de moyens. Donc, ils finissent par accepter. Mais ça, moi, j'ai rencontré des directrices d'école, par exemple, qui avaient assumé, qui avaient eu le courage politique de dire, en fait, non, vous représentez telle industrie, vous venez influencer les enfants, je ne veux pas de vous dans mon école. Mais ça demande du courage politique et donc à toutes les échelles.
Merci beaucoup pour cette présentation et cette discussion.
Bonjour, je voudrais évoquer le problème du fonctionnement des élections de la FNSEA, c'est-à-dire que je crois que...
Les chambres d'agriculture ?
Oui, c'est-à-dire que celle qui est majoritaire Alors j'aimerais que vous expliquiez un peu.
C'est que les chambres d'agriculture, donc il y a un changement tous les 6 ans, je crois que c'est, ou 8 ans. Mais en tout cas, les prochaines élections sont en janvier. Et il se trouve que les élections ne fonctionnent pas à la proportionnelle, surprise. En fait, c'est simple, c'est qu'il y a plusieurs syndicats qui se présentent. Et le syndicat qui obtient le plus de voix obtient automatiquement la moitié des sièges. Sauf qu'en fait, par exemple, vous pouvez avoir la CONF qui va faire 19%. Et si la FNSEA associée aux jeunes agriculteurs, parce qu'ils arrivent à faire en sorte que leur voix compte pour un, ce qui n'est pas du tout normal, mais ils arrivent à faire ça, s'ils sont à 20% et que les autres sont à 19%, eh bien automatiquement, ils ont la moitié des sièges. Donc en fait, ça, c'est un vrai problème. Et l'un de mes rêves, si je pouvais, j'aimerais monter une campagne entière sur, en fait, pour faire changer ces règles d'élection au niveau des chambres d'agriculture.
Oui, je vais me permettre une précision sur le financement des syndicats dont je fais partie, hein, puisque je suis dans le comité régional de la Confédération paysanne pour la Nouvelle-Aquitaine. Je suis membre du bureau et donc je suis placé pour le savoir. Donc le financement, est, bien sûr, c'est l'État et les départements qui nous financent, qui financent tous les syndicats. Donc ça aussi, donc la démocratie est plus qu'à revoir à ce niveau-là. C'est-à-dire que les... Nous sommes, à la CONF tout au moins, ça représente que les cotisations des adhérents représentent que 6% du budget de la CONF. Voilà. Le 94% restant est à charge de l'État, ce sont des subventions.
Et en plus, il y a un décret qui est en cours de discussion au sein du ministère de l'Agriculture et qui viserait à changer l'octroi de ces subventions, ces subventions, de ces financements. C'est pas des
subventions. Nous sommes les mauvais élèves des syndicats.
Voilà. Et en fait, la FNSEA agite le drapeau du fascisme. La FNSEA dit au gouvernement que la coordination rurale, c'est l'extrême droite. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, en fait. Il y a quelques représentants de la coordination rurale qui sont très clairement affiliés au RN. Mais en fait, tout le monde ne l'est pas du tout. Ils n'ont pas une ligne. Ils ont une ligne même plus intéressante et plus proche de la lutte des classes, en fait, que la FNSEA. En fait, la FNSEA agite le drapeau de l'extrême droite au sein de la coordination rurale pour dire « faites changer l'octroi, le mode de financement ». Et ils veulent récupérer encore plus de financement pour que les petits partis, les petits syndicats en obtiennent encore moins, pour que ça affaiblisse la coordination rurale, mais ça affaiblirait aussi la confiance.
Tu disais que un de tes rêves, ça serait de porter une campagne... Et je pense que là aussi où il faudrait pouvoir gagner de la force, c'est parce qu'il y a les exploitants, exploitantes agricoles, mais il y a aussi tous les travailleurs, travailleuses agricoles qui sont bien plus nombreux que les chefs d'exploitation et qui ne sont pas du tout représentés par des syndicats et qui ne votent pas. Il y a aussi les cotisants, cotisantes solidaires qui ne votent pas.
Solidaires.
Et du coup, tout ce système-là d'agriculture est aussi soutenu par ces personnes qui sont invisibilisées et qui n'ont pas de...
Tout à fait.
Ne sont pas portées par les syndicats. Et à la CONF, effectivement, on essaye de faire des trucs, mais on est 10 000 sur 390 000.
C'est un vrai sujet. Et ça fait partie des, quand je dis faire changer les règles du jeu, il y a faire changer ça notamment. Il y a faire en sorte que les cotisants solidaires puissent voter aux chambres d'agriculture pour qu'il y ait plus de monde. Et il y a des discussions en cours en ce moment. J'ai croisé encore une amie hier qui est en train d'essayer de s'auto-organiser dans les mouvements agricoles pour qu'il y ait des syndicats d'ouvriers agricoles. Ouais. Parce que la Confédération paysanne aujourd'hui refuse les adhésions de la part des ouvriers agricoles. Ce qui, moi, me pose question et qui pourrait permettre débat, mais peut-être que Greg, tu vas clarifier.
Oui, amis de la CONF qui
Oui, mais les amis de la Confédération paysanne ne peuvent...
Sans forcément être exploitant agricole.
Oui, mais ne peuvent pas voter aux élections.
Mais ça, c'est une règle nationale.
Là où il faudrait que les...
Il faut changer une règle nationale.
La CONF soutienne vraiment, c'est dans la création des syndicats de travailleurs
agricoles.
Oui,
tout à fait. Ça fait partie des grands points de lutte à venir. Je soutiendrai ça avec plaisir.
Je voudrais revenir sur l'impact sur le politique. Sur le politique, je suis bien placé pour connaître un peu les fonctionnements, c'est-à-dire que, suivant les gouvernements que l'on a, on a des gouvernements qui font en sorte de développer des polices, dans le sens général, pour faire respecter la loi. Et il y a des gouvernements qui prennent à leur compte des idées, justement, qui fait qu'elles ne pourraient pas aboutir dans leurs actes si elles ne transgressaient pas la loi.
Tu peux donner un exemple concret?
Je prends un exemple concret. Je suis président de l'Alliance des opposants à la chasse sur le plan national, qui regroupe plus de 40 associations, dont d'ailleurs L214, Fondation Brigitte Bardot, etc., CIGEFARD. On s'aperçoit effectivement qu'il n'y a pas de police de la chasse, qu'elle n'existe pas. Et là...
La chasse, c'est la police.
Voilà. Donc, et en plus, quand il y a des transgressions de la loi... qui sont souvent classés sans suite parce qu'il y a des interventions politiques qui font qu'il y a barrage. Je suis aussi membre de l'OFB, hein, correspondant de Réseau d'Entre. Et là, vous évoquiez tout à l'heure le problème des commissions parlementaires. Il est quand même absolument stupéfiant qu'à partir du moment où une entreprise ne publie pas ses comptes, l'État ne fasse pas en sorte de lui-même de mettre en place des rétorsions afin que cette loi soit respectée. Ouais. Et dans le problème de la chasse, c'est exactement pareil.
Tout à fait. Voilà.
Et donc, d'où l'importance du vote. Et j'ai vraiment un fonctionnement anarchiste, mais je vote.
Merci beaucoup, Laure, pour cette présentation.
Merci
donc, autour
toi.
De ton livre, Les frites viennent des patates, de Laure Ducot, aux éditions Grasset, qui a été publié en février dernier.
C'est ça, merci beaucoup.
Merci à vous.